Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. C'est un grand jour, mes amis. Aujourd'hui, je reçois le premier homme de l'histoire de Build Yourself, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Tony Neves, un entrepreneur, également podcasteur et youtubeur, qui est la première personne à m'avoir invité sur son podcast que je ne connaissais pas. Autant vous dire que j'étais très stressée. Mais j'avais accepté avec grand plaisir et en fait j'avais passé un excellent moment, on était restés en contact par la suite, j'ai découvert plus en détail son travail, etc. Et je suis franchement très heureuse de pouvoir lui rendre l'appareil en l'invitant dans mon podcast aujourd'hui. Alors Tony, sa spécialité c'est la création de contenu et notamment sur Instagram et sur YouTube. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, de comment il a découvert le business en ligne, comment il s'est lancé. Les erreurs qu'il a pu commettre au début, et je pense que ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Ensuite, on parle de stratégie de vente. Alors, il a testé différentes choses, et c'est ce qui est hyper enrichissant dans son parcours, je trouve. Et on va arriver à la fin dans le détail de la stratégie de contenu et dans le fait d'utiliser les plateformes qu'on a à disposition pour faire connaître notre activité et attirer notre client idéal. Avant de vous laisser avec notre échange, je mentionne simplement qu'il organise une masterclass totalement gratuite demain, le jeudi 27 mai à 11h, heure de Paris, pour vous dévoiler les trois secrets, la formule en trois étapes pour un business stable et rentable grâce à Instagram. Vous êtes nombreux à me demander comment utiliser Instagram pour le business, comment se faire connaître, etc. Et c'est pas une plateforme sur laquelle je mets énormément d'énergie, et avec laquelle je me sens légitime à donner des conseils. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'utiliser Instagram pour faire connaître leur activité, eh bien c'est la masterclass parfaite pour vous. Donc je vous mets le lien d'inscription dans les notes de cet épisode. Et je vous laisse maintenant, enfin, avec le contenu de notre échange. Je vous souhaite une très belle écoute. Et salut Tony, bienvenue dans Build Yourself.
Salut Safia, ça va ?
Ben, très bien, tu es le premier homme de ce podcast. C'est un jour spécial.
Oui, un jour spécial. Très spécial pour moi, très content, très honoré d'être le premier homme sur ce podcast.
Ben, en fait, je suis d'autant plus contente puisque, comme je le disais, tu es la première personne à m'avoir invité sur son podcast. Personne que je ne connaissais pas vraiment, si tu veux, personnellement. Mm-hmm. Donc, je suis contente de pouvoir te rendre l'appareil en étant la première personne de sexe masculin qui intervient dans cette
émission. Je suis très content.
Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton parcours, entre guillemets, universitaire, tu vois ? Quel est ton...
Ok. Côté vraiment études et tout.
Exactement.
Alors, foi, ça va être très rapide. J'ai obtenu un bac STMG. Je ne sais plus si le nom est toujours le même aujourd'hui, mais en gros, bac technologique.
Ouais.
Avant de poursuivre... Alors, le bac technologique, je ne l'ai pas bien choisi. Hein. On m'a dit, tu vas là, sinon tu redoubles. Donc,
j'ai connu ça aussi.
Voilà, tu vois. Et suite du bac technologique, j'ai fait un BTS MUC de 2 ans en alternance.
Ouais.
Je dis souvent que c'est un peu la suite logique parce que bac STMG, c'est assez vague. Tu parles un peu de tout, d'économie, de marketing, de management, de droit. BTS MUC, c'est clairement la prolongation de ça, en fait. Hein. C'est encore un truc assez vague. Et après, c'est tout. J'ai arrêté à la fin de mon BTS MUC, bac plus 2.
Parce que tu en avais marre, parce que tu avais envie de faire d'autres choses.
En fait, ouais, je fais mon BTS MUC du coup en alternance dans un magasin de vêtements prêt à porter. Parce que à l'époque et encore aujourd'hui, un peu moins quand même, je suis un peu plus minimaliste aujourd'hui, je me calme. J'ai toujours été un peu, j'ai beaucoup aimé la sape, surtout les chaussures, ouais. etc. Et du coup, tu vois, t'as 18 ans, t'as envie de trouver un petit boulot, machin, bosser dans un truc qui te plaît, moi je me plaisais bien, tu vois, dedans. Première année qui se passe très bien, deuxième année en alternance, je commence à, tu vois, le syndrome de l'entrepreneur. Je me dis, je me lève tous les matins, je fais toujours la même chose. Au final, je me rends compte que ça ne me fait pas plus kiffer que ça, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, la deuxième année, que je commence à avoir une remise en question. Aussi, surtout, à cause du manque de liberté. Il y avait aussi cette grosse partie de, tous les jours, c'est les mêmes horaires. Tu n'as pas le choix, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui ne t'écoute pas, il s'en fout de ce que tu dis, etc. Et en fait, tu es obligé d'écouter ce qu'il dit parce que tu es salarié, tu vois.
Ouais.
Donc, obligé de terminer mes études, obligé d'obtenir mon diplôme, c'est quand même bête de passer à côté. Et en fait, l'année suivante, je postule quand même pour une licence parce que je ne sais pas trop quoi faire de ma vie encore. Je me pose plein de questions, mais je n'arrive pas à prendre de décision. Donc, je postule pour une licence web marketing, tu vois. Donc, je commence à rentrer dans un truc qui me branche. Mmh. Sauf que je me fais en fait refouler clairement par tout le monde parce que j'ai un très, très mauvais dossier, vraiment très mauvais dossier. Et du coup, je dois faire une année de césure blanche parce que personne ne m'accepte, aucune école ne m'accepte, aucun patron m'accepte. Et en fait, c'est pendant cette année de césure où là, j'ai une grosse remise en question. Je fais des petits boulots à droite, à gauche. Je vais bosser à l'usine. J'essaye d'être commercial aussi pour une entreprise. Et c'est durant cette année-là, du coup, un petit peu forcé où je ne fais pas d'études, que j'ai ma remise en question, que je commence à découvrir un peu le business en ligne sur YouTube, au travers de bouquins. Arrivé à cette fin d'année de césure, je me dis je pense savoir ce que je veux faire. Pas exactement mot pour mot, je ne savais pas que j'allais devenir formateur, mais je savais en tout cas que je voulais entreprendre et je prends la décision de ne pas retourner à l'école, de continuer à faire un job alimentaire clairement et de lancer mon business à côté.
Et du coup, avec quoi tu démarres?
Je démarre avec un iPhone, une perche à selfie et un micro-cravate. En fait, clairement, je démarre un petit peu, comme je dis souvent, avec ma bite et mon couteau, tu vois.
Ouais.
J'arrive, j'ai aucune compétence dans rien, tu vois. Je me suis jamais spécialisé dans rien dans ma vie. J'ai jamais eu de passion, mis à part le sport, tu vois.
Mm-hmm.
Donc, je savais pas de quoi parler. J'avais lu quelques bouquins, tu vois, sur le dev perso, sur le business, sur des choses comme ça. Et du coup, je me dis, pourquoi pas me lancer sur YouTube ? C'est une plateforme que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas trop d'argent, je peux pas trop acheter de caméra, donc je me filme avec mon iPhone, je m'enregistre avec mon micro-cravate, une perche à selfie, et je commence à faire des vidéos. Je traite un petit peu des sujets qui me passent par la tête. C'est plus, au début, vraiment une sorte de mémo, tu vois. Chaîne YouTube, c'est vraiment... j'ai une idée, j'ai envie de parler d'un truc, je le fais. Donc, c'est très brouillon au début. Je parle un petit peu de tout et de rien. Et au fur et à mesure... que je crée du contenu, c'est là que ça commence un petit peu à prendre une direction et des mois plus tard vraiment à prendre la direction de la création de contenu et du business en ligne et des réseaux sociaux.
Ouais, c'est drôle parce que du coup, je suis allée regarder ta chaîne YouTube et les premières vidéos postées et c'est vrai qu'il y avait des vlogs voyage, surmonter sa peur de parler en public ou d'aller chez le dentiste et tout. Et en fait, je trouve ça trop drôle et je pense qu'on en est beaucoup à passer par là. Tu vois, on a cette volonté de faire un truc. Mais on ne sait pas quoi. Donc, on fait tout.
Ouais, clairement. En fait, tu as deux écoles. Tu as l'école qui va être tétanisée parce que, en fait, elle veut être sûre d'avoir son idée, tu vois, d'avoir le truc, le cadre, le machin. Et vas-y, j'avance quand j'aurai tout ça. Et tu as l'autre école en mode, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je sais juste que ça tourne autour de l'idée de l'entrepreneuriat. Donc, je vais me lancer. Et puis, on verra bien un petit peu comment tout ça va avancer. Et puis, comment l'idée va se peaufiner au fil du temps. Mais c'est clair qu'au début, et encore, tu retournes sur ma chaîne, mais j'ai supprimé un paquet de vidéos. Hein. Mais ça allait, c'est comme tu dis, ça allait de je parle de ma phobie chez le dentiste, à je parle d'un bouquin sur, que j'ai lu sur la Warrior Diet, à je parle de crypto-monnaie alors que j'ai jamais investi, tu vois. Je parlais clairement de tout. Et après, bah, c'est ça, encore une fois, qui m'a aiguillé dans ce que j'aimais et dans ce que j'aimais moins.
Et à quel moment tu as commencé à générer des revenus? Est-ce que tu générais des revenus à ce moment-là quand tu avais des thématiques totalement variées? Ou est-ce que ça a été plus tard quand tu as décidé de te concentrer sur la création de contenu, sur Instagram, etc.?
Bah ouais, ça a été clairement plus tard parce que au début, alors en fait, tout est venu un petit peu en même temps, dans le sens où au début, bah, je parlais un petit peu de tout et de rien. Donc, Mon trafic sur YouTube et sur Instagram aussi, donc en fait j'ai toujours eu un peu ces deux plateformes-là phares. Ouais. Mon trafic sur les deux plateformes, bah, vu que je parle un peu de tout et de rien, les gens n'accrochent pas vraiment parce que tu viens sur une chaîne YouTube où en fait tu ne sais pas trop de quoi le mec il parle, tu vas regarder une vidéo mais les 99 autres ne vont pas t'intéresser. Et à partir du moment où donc je retourne un petit peu dans mon passé, je regarde un petit peu derrière moi, je me dis, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être que tu parles d'un truc que tu maîtrises, tu vois. Il faudrait peut-être que tu parles de sujets que tu gères ou pas forcément où tu es expert dessus, mais au moins où voilà, tu as déjà fait des choses. Et c'est là que je me mets à parler de création de contenu parce que j'avais tourné beaucoup de vidéos et la création de contenu, c'est chercher des idées, c'est structurer, c'est faire du montage, etc. Et à partir du moment où je me mets à parler de création de contenu finalement d'un sujet que je gère, il y a un shift qui se fait. Ça commence à prendre en termes d'audience, les gens restent, les gens regardent, les gens s'abonnent, les gens interagissent. Et forcément, donc plus tard, pas instantané, tu vois, mais des semaines après, bah, je commence justement à sortir des produits, des formations et à vendre. J'avais sorti 4 formations qui avaient généré aucun revenu. Zéro, hein, peanut, vraiment même pas une formation et un remboursement derrière, vraiment rien du tout. Et le jour où justement j'ai ce déclic, ce shift-là, je lance une formation qui marche. Ça n'a pas fait un carton plein, hein. J'ai fait 3 ventes. Mais ouais. C'était sans doute les 3 plus belles ventes de ma carrière.
Mais alors, c'est drôle. Je trouve que s'il y a une belle leçon derrière, c'est que malgré les plusieurs formations que tu as lancées qui ne se sont pas du tout vendues, tu n'as rien lâché. Mmh. Est-ce que tu avais déjà confiance en toi ou tu savais au fond de toi que ça allait prendre? Tu vois, tu ne savais pas quand, mais tu étais persuadé qu'il y avait un truc à exploiter.
En fait, je ne savais pas quand, c'était juste ça. Il y a une citation, j'aurais du mal à retrouver l'auteur. J'aime beaucoup les citations, malheureusement, je ne retiens jamais les auteurs, qui dit que tout arrive à qui croit, rêve, ose et n'abandonne jamais. Et en fait, moi, c'est une citation qui m'a marqué depuis très très longtemps parce que j'ai toujours été convaincu que l'échec, l'échec arrive à partir du moment où juste tu abandonnes et tu baisses les bras. Parce que le reste, c'est juste une question de temporalité, tu vois. C'est juste une question de, bah, en fait, oui, ça va arriver, c'est une certitude. Si tu bosses pour, si tu fais en sorte tous les jours d'avancer un petit peu plus, la question qui reste un peu infondée ou à laquelle on ne peut pas répondre, c'est quand est-ce que ça va arriver, tu vois. Donc moi, je savais que ça allait arriver parce que tous les jours, je bossais, tous les jours, je faisais en sorte de faire un petit pas de plus. C'était une vidéo, c'était un post, c'était une réflexion. Donc des fois, je sortais des formations, tu vois. Mmh. Et je savais juste qu'un jour, ça allait payer. Bah, je ne savais pas quand, malheureusement. Mais c'est ce qui me motivait à avancer. Et surtout, j'avais et ça, je pense que c'est souvent oublié, j'avais un réel pourquoi. J'avais un réel pourquoi, je faisais vraiment les choses parce que j'avais envie de les faire, parce que je voulais cette liberté, je voulais pouvoir voyager, je voulais pouvoir faire quelque chose qui me plaît vraiment, me lever avec amour, avec intention, etc. Et c'est ce qui a fait que malgré 4 formations qui ne marchent pas, malgré des centaines de vidéos dans le vent, j'arrive quand même à y croire.
Ouais, et c'est hyper inspirant, je trouve. Et alors, je connais ton parcours. Bah, pas en détail, mais voilà, j'ai une trame, si tu veux, de ce que tu as fait. Et donc, du coup, j'ai découvert que tu avais eu un espèce de déclic quand tu as gagné tes premiers 1000 euros avec ton activité et que ça t'a aussi permis de comprendre ce qui n'avait pas marché avant et notamment le fait que tu ne vendais pas du tout.
Mmh. En fait, j'étais, pour la petite histoire, j'étais en Asie. Donc, en fait, je me suis lancé le défi... quand je ne gagnais pas encore d'argent, donc j'avais juste ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, j'avais une communauté, tu vois, de 500 personnes, je crois, à l'époque. Et je décide de partir en Asie avec mes économies. Donc, je me dis, voilà, je pars 3 mois en Asie avec l'argent que j'ai mis de côté et j'ai 3 mois pour revenir avec un salaire. J'ai pas le choix. Parce que quand tu goûtes après la liberté que tu as ici, je voulais pas revenir en France et retourner travailler.
Ouais.
Donc, je me suis vraiment, c'est un peu, tu vois, voilà, tu brûles les bateaux, tu pars et puis tu n'as plus le choix, quoi. Et en fait, arrivé ici, je rencontre des entrepreneurs, dont Enzo Honoré,
oui.
avec qui j'ai la chance de discuter. On mange ensemble, etc. Plusieurs fois, on se voit. Et en fait, une fois, on mange ensemble avec des amis à lui. À l'époque, j'avais 1000 abonnés sur YouTube. Et il me dit, comme ça, il me regarde, il me dit, tu génères toujours pas de revenus? Je lui dis, bah non, tu vois. Il me dit, tu fais mal les choses, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 1000 personnes qui suivent ce que tu fais, qui aiment ce que tu fais, et que tu génères pas de revenus. Et il me pose la question fatidique, il me dit, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de tes offres? Je dis, bah, je sais plus, c'était il y a 2 mois, je crois. Il me dit, bon, bah voilà, tu as la réponse. Comment tu veux que quelqu'un achète aujourd'hui si la dernière fois que tu as parlé de tes offres, c'était il y a 2 mois? C'est, en fait, mathématiquement, c'est pas possible, tu vois.
Ouais.
Surtout quand tu as une toute petite audience comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, OK, la vraie solution qu'il faut que je mette en place, c'est que bah, je continue à faire croître mon audience, à la développer, et surtout que je parle de mes offres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler tous les jours, qu'il faut harceler tout le monde, mais au moins avoir une fréquence qui est cohérente, tu vois, et qui te permet de générer des revenus constamment.
Ouais, c'est vrai. Et c'est bien que tu le mentionnes parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans cette position, qui disent que je ne comprends pas, je ne fais pas de vente, pourtant j'ai une audience, j'ai un compte Instagram, etc. Mais en fait, la finalité, ouais. Elle est là, c'est qu'ils n'osent pas parler de ce qu'ils font.
C'est ça, c'est un problème de fréquence. Parfois, c'est un problème de légitimité, tu vois. Je ne me sens pas légitime, j'ai peur. Est-ce que les gens vont être déçus, vont pas être déçus. Donc, ça demande quand même d'avoir confiance en soi, ça demande quand même d'avoir confiance en ses produits. Mais de toute façon, la confiance, elle se crée, tu vois. Le déclic, il faut qu'il soit là, il faut lancer, il faut parler des offres parce que c'est qu'une question de fréquence. Si t'en parles jamais, c'est sûr que tu vendras jamais. Par contre, plus t'en parles, plus tu vends. Par contre, il y a une question aussi forcément d'équilibre. À un moment donné, il y a un point de bascule. Si tu en parles trop, au bout d'un moment, tu vas peut-être saouler un petit peu tout le monde. Mais en tout cas, c'est sûr que ouais, y a un gros problème, je pense, autour de ça.
Totalement. Bon, du coup, tu gagnes tes premiers 1000 euros. C'est un déclic pour toi. Tu changes les choses. Et du coup, tu expérimentes beaucoup avec le business en ligne et les différentes stratégies de marketing qui existent. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout le même marketing, on va dire, que celui qu'on pratique aujourd'hui. Et du coup, ce que tu faisais, c'est que tu faisais des énormes promos où tu créais plusieurs produits, par exemple, un toutes les 2 semaines.
C'est ça.
Et ça devait être un rythme incroyable.
En fait, ça, je pense qu'on a tous nos stratégies. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a plein de stratégies différentes. Je pense surtout qu'on a des stratégies qui correspondent à ce qu'on a envie de construire. Comme tu dis, à l'époque, j'avais cette stratégie-là qu'on a eu beaucoup de personnes et que ont encore beaucoup de personnes aujourd'hui de créer beaucoup de produits, donc de faire des produits assez fréquemment et en fait de faire des systèmes de grosses promotions. Donc, comme tu dis, tu sors le produit, admettons, à 500 euros, mais en fait, ton but, c'est pas de le vendre à 500 euros, ton but, c'est de le vendre à 100 euros. Sauf que du coup, tu le vends à 500, tu vas faire une promo à moins 80%, et en fait, finalement, c'est l'émotion qu'il y a autour de la promotion, la création d'urgence qui fait que tu vends ton produit. Ça, je l'ai testé, ça fonctionne et c'est OK, sauf que. Comme tu dis, ça n'allait pas avec mes objectifs pour plein de raisons. La première, c'est que quand tu fonctionnes comme ça, de un, tu es constamment obligé de parler de tes offres, tout le temps. Tu es obligé parce que si tu crées des produits tout le temps, tu es obligé forcément d'en parler tout le temps, tu vois. Parce que tu n'as pas de système de vente mis à part ça. Deuxième problème que j'avais, c'est que tu ne vendais pas hors promotion. Tu vois, parce que justement, ton business model, c'est de faire des grosses promos. Bah, le jour où tu n'as plus de promos, tu ne vends pas. Je discutais l'autre jour avec, c'est une parenthèse, mais qui a son sens, avec une amie à moi qui est ici à Bali et qui est entrepreneur et qui a un e-commerce et qui me disait qu'elle, elle est obligée tout le temps de faire. En fait, son produit ne se vend pas s'il n'y a pas de promotion dessus. On est sur du e-commerce, donc ça paraît logique, mais pour elle, c'est véridique. Elle a essayé un jour de vendre sans promotion, elle perd quasiment 60% de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ça t'amène constamment à faire des promotions, ça n'allait pas. Et autre chose, c'est que le temps que je passais à bosser sur des produits toutes les semaines ou toutes les deux semaines, c'était du temps que je passais pas à créer du contenu, à faire d'autres choses qui, à mon sens, avaient aussi toute leur importance. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui a quasiment 75 000 abonnés.
Ouais.
J'ai un compte Instagram qui a une bonne audience aussi. Pourquoi ? Parce que je passe du temps sur cette création de contenu et que cette création de contenu m'amène du trafic. Maintenant, si je passais constamment mes journées à créer des produits, je ne pourrais pas créer d'aussi bon contenu sur d'autres plateformes qui me génèrent du trafic. Et encore une fois, c'est en fonction des objectifs de chacun, tu vois.
Ouais.
C'est sûr que moi, ça a vachement évolué avec le temps. Peut-être que ça évoluera encore, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un système vraiment qui correspond beaucoup plus à ma personnalité et à mes objectifs.
Et ce système, du coup, c'est de créer moins d'offres, forcément, mais d'avoir une stratégie de contenu qui soit bien ficelée et surtout intentionnelle, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, il y a un truc dont on parle peu, finalement, qui est assez tabou, c'est aussi la qualité des formations. Moi, honnêtement, je le regrette, mais bon, on apprend de nos erreurs. Les premières formations que j'ai sorties, faut pas se voiler la face. Hein. Créer une formation toutes les semaines, la qualité des formations, elle est pas optimale. C'est moi, la personne qui vient me voir et qui me dit, moi, toutes les semaines, j'arrive à créer une formation et la formation, elle est 100% optimale. Il y a vraiment tout est carré. J'aimerais bien voir la formation, tu vois.
Ouais.
Une formation, une bonne formation, ou en tout cas, ce que moi j'entends comme étant une bonne formation, ça prend du temps, tu vois. Faut d'abord la créer, faut la structurer. Quand je bosse sur des formations, je fais appel à des clients qui sont déjà clients chez moi et je construis ma formation avec eux, tu vois. Comme ça, ouais. Je suis sûr de viser juste. Il y a une grosse partie pour moi aussi visuelle qui est très importante dans la formation. Je fais en sorte d'avoir un joli setup. Je fournis aussi à mes clients, tu sais, tout un tas des PDF, des workbooks, etc.
Oui.
Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Donc, si tu fais ça toutes les semaines, c'est compliqué d'avoir, encore une fois, qualité-quantité. Les deux sont assez difficiles à, tu peux pas avoir les deux en même temps, quoi.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Et tu vois, les gens, ça, ils ont tendance à ils sont trop impatients. Quand tu dis à une personne, tu viens de sortir une formation qui s'appelle Insta Academy, ça fait 6 mois que tu bosses dessus, quoi. Et tu dis à un entrepreneur, là, créer une bonne formation, ça va te prendre 6 mois, mais il va baisser le bras, il va te dire c'est mort.
Ils n'ont pas envie. C'est sûr. C'est sûr. Et pourtant, c'est peut-être par là que. C'est Maëlan qui disait ça dans un de ses derniers posts. Je crois qu'elle avait mis un an à créer la bonne formation, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est ça. C'est comme un bon vin, tu vois. Ça se fait dans le temps, ça se fait dans la durée. Là, on parle d'une formation qui met autant de temps. Et toi, c'est pareil avec ton podcast, tu vois, avec ta formation sur le podcast. Une formation comme ça, ça ne se crée pas déjà en une seule fois. Tu la crées, ensuite, tu as des retours, tu l'améliores constamment. Et la formation, au final, ce n'est pas une bonne formation. C'est une formation qui est excellente. Et moi, je suis vraiment partisan de ce genre de programme parce que finalement, déjà, tu changes vraiment la vie de tes clients. Ils ont vraiment des résultats avec. Et puis, tu arrives à un stade où c'est même plus toi, tu sais, qui en parle. On a ce qu'on appelle des brands advocates, je ne sais pas comment on dit en français la traduction, tu vois, mais des ambassadeurs qui font que c'est les gens carrément qui amènent leurs potes, qui amènent leurs partenaires de business. Tu deviens une référence et tu n'as plus besoin de parler de tes offres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en parler. Hein. Mais moi, je suis vraiment comme toi. Je suis très partisan d'avoir vraiment cette patience, surtout quand il s'agit de programmes en ligne et de faire en sorte de créer le meilleur programme possible plutôt que de faire des petits one-shot comme ça et de réduire la qualité des programmes, quoi.
On est d'accord. Aujourd'hui, les revenus de ton entreprise, est-ce que c'est 100% de la formation en ligne ?
Ouais. Honnêtement, je regarde pas trop en vrai. Enfin, je calcule pas trop les pourcentages. Oui. J'ai un tout petit peu d'affiliation, mais c'est genre une centaine d'euros, tu vois, maximum.
Ouais.
J'ai pas du tout de coaching. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai un coaching, mais ça doit représenter 1% même pas de mes revenus. Donc moi, c'est 100% de la formation en ligne et ça a toujours été d'ailleurs. J'ai rarement fait de coaching, j'ai rarement fait d'autres méthodes de revenus, d'autres styles de revenus, quoi.
Ouais, et puis j'ai envie de dire que ça s'adapte bien aussi à ton envie d'être digital nomade, tu vois, avec la formation, tu as beaucoup moins de contraintes.
Ouais, c'est ça. Et puis même au-delà du nomadisme, évidemment qui est important, tu vois. Genre là, je le vois par exemple, on est en train de faire un podcast. Pour moi, il est 19h30. Pour toi, il est 13h30. Donc il y a déjà cette temporalité qui n'est pas évidente si tu fais du coaching. Et c'est surtout en fait que... c'est vachement basé sur ma personnalité, tu vois. Je suis quelqu'un de sociable, j'aime les gens, mais j'ai pas cette appétence en termes de relations humaines, etc., qui est nécessaire si tu fais du coaching. Donc c'est pour ça que je vais pas me tourner vers du coaching parce que c'est pas trop fait pour moi, en fait. C'est pas mes appétences. C'est pas trop mes compétences non plus. Moi, j'ai des compétences, je suis très pédagogique, pédagogue, pardon, parce que j'ai fait des milliers de contenus, j'ai fait des centaines de vidéos. J'aime beaucoup la vidéo. Donc, moi, le format, finalement, formation vidéo, c'est un peu une évidence, tu vois. Donc, il y a aussi l'appétence, je pense, qui est importante à prendre en compte sur ce genre de truc.
Oui, je te rejoins totalement. Je suis comme toi aussi, les coachings, je trouve ça très énergivore. Pour moi, tu vois, c'est un truc que je ne peux pas non plus faire. Alors du coup, aujourd'hui, ton business, ton activité repose sur la stratégie de contenu. Et ça, c'est génial parce que en fait, c'est une forme de prospection. Et ça, les gens ne le comprennent pas.
Ouais.
Créer du contenu, c'est prospecter, mais de manière indirecte. Et c'est aussi gratuit. Donc pour toi, déjà, c'est bien. Ça réduit encore plus tes coûts. Et donc, tu te bases sur YouTube et sur Instagram aussi beaucoup. Et pourquoi tu as choisi Insta?
Pareil. Alors, je voulais juste, enfin, je refais, je clôture ta parenthèse, mais c'est ça en fait. La stratégie de contenu, c'est, pour moi, c'est la meilleure forme de prospection parce que finalement, de un, comme tu dis, tu ne dépenses pas d'argent. Et de deux, en plus de prospecter, tu crées déjà une relation de confiance et t'apportes déjà un début de solution à ton audience. Tout ce dont une personne a besoin pour passer à l'achat. Le problème de la publicité, etc., alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire hein, ou que ce n'est pas bien, mais c'est qu'une pub, en général, c'est une pub. Donc, tu arrives et tu essaies de convertir la personne. Alors que quand tu fais du contenu, tu es déjà sur un apport de valeur avant de vendre quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est vraiment genre la meilleure forme de prospection. Et pourquoi j'ai choisi Instagram et au YouTube au passage en même temps, pareil, vachement une question de personnalité et d'appétence. Instagram, pour moi, ça a été direct une évidence parce que c'est une plateforme sur laquelle j'aime beaucoup consommer du contenu comme YouTube et aussi sur la plateforme sur laquelle j'aime beaucoup créer du contenu. Avant de vouloir entreprendre, avant d'avoir un business en ligne, il faut savoir que mon compte Instagram actuel, là, c'est mon compte perso. Donc, si ceux qui veulent s'amuser à remonter les 500 publications, ils peuvent les remonter, ils vont retrouver mes photos d'avant. mais c'était mon compte perso parce que je publiais pour moi un petit peu des photos que je pouvais faire à droite à gauche quand je partais en voyage. Donc j'avais déjà ce truc de vouloir poster avant même que ce soit professionnel, tu vois.
Ouais.
Et c'est tout en fait. C'est-à-dire que, enfin, c'est tout. Il y a la partie appétence et aussi la partie forcément stratégique derrière, dans le sens où Instagram, c'est un peu, c'est the plateforme, tout le monde est dessus. Tu peux toucher facilement les gens. Si tu as envie de trouver ton client idéal, il te suffit de bien chercher un petit peu sur des hashtags, sur de la localisation, etc. Tu peux le trouver. Donc, on a aussi cette forme de proximité, cette forme de si j'ai envie de trouver mon client et de développer mon business rapidement, c'est une très bonne plateforme.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Et alors, du coup, donc moi, j'ai adoré ta formation Instacademy parce que je la trouve vraiment, vraiment très complète et notamment ton module sur la stratégie de contenu, puisqu'on en parle. Et parce que tu... Alors, comment dire? Comment formuler ça? On sait tous que pour vendre, on a besoin du know, like, trust, qu'on achète chez des gens qu'on connaît, qu'on apprécie et en qui on a confiance. Et toi, tu as mis en place une méthode qui permet de bâtir ce know, like, trust à travers le contenu. Et donc, tu recommandes de créer différents types de contenus. Est-ce que tu peux m'en dire un peu?
Oui. En fait, déjà, le know, like, trust, on révise un petit peu pour ceux qui connaissent et on apprend pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait, clairement, c'est l'entonnoir de vente. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on fait passer une personne qui ne nous connaît pas à un client. Le know, c'est la découverte. Donc, je fais passer d'une personne qui ne me connaît pas à « Ok, je sais qui c'est ce mec ». Le like, c'est « Je sais qui c'est » à « J'aime bien ce mec ». J'aime bien, j'apprécie cette personne. Et le trust, c'est trust sales en même temps, tu vois. C'est « Je lui fais confiance, je peux passer à l'action avec lui ». Et en fait, c'est important dans une stratégie de contenu, du coup, d'avoir des contenus qui permettent de soutenir vraiment ces trois piliers. Trop, trop souvent sur Internet, on est soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux, mais jamais sur une harmonie, tu vois.
Ouais.
Je vois beaucoup de personnes faire beaucoup de likes, c'est-à-dire beaucoup de posts où ils partagent leur vie, ils racontent un petit peu leurs anecdotes personnelles, ils partagent leur quotidien, etc. Il faut en faire, c'est bien. Mais on manque justement cette découverte et surtout on manque cette partie trust promotionnelle qui fait qu'on va vendre, tu vois. Donc en fait, on se retrouve avec un business où on se retrouve avec un compte Instagram et un business aussi où on stagne d'un point de vue trafic, on stagne d'un point de vue revenu, mais les gens nous apprécient. Et en fait, à chaque étape, tu peux faire un constat finalement d'un compte. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une harmonie entre les trois. Donc par exemple, de créer du contenu humanisant, contenu personnel, anecdotes personnelles, parcours que vous avez rencontré dans votre quotidien par rapport à votre thématique, leçons de vie, des choses finalement qui vont rendre votre business, votre marque, votre personne un peu plus humaine. Donc ça, c'est pour la partie centrale, le like. La partie haute pour le trafic, pour la découverte, vous pouvez créer différents contenus, soit des contenus à but viraux, tu vois, genre les réels, par exemple, c'est très viral.
Ouais.
Les citations, c'est souvent partagé. Les lives, tu vois, les lives, bah, c'est un contenu viral.
Ouais.
Pas viral comme on l'entend, tu vois, pas viral en mode ça fait des millions de vues, mais la viralité, ou plutôt du coup, le KNO, tu vois, c'est la découverte. Mm-hmm. C'est juste vous faire découvrir par d'autres personnes. Donc, si vous faites des lives, indirectement, vous faites découvrir par du monde. Et donc, de mettre en place justement des contenus de ce genre. Et sur la partie trust, bah, clairement, des contenus promotionnels, tu vois. Promotion de mes offres. Et en fait, la promotion, c'est pas juste « Bonjour, vous allez bien ? Voilà, j'ai une nouvelle formation, venez l'acheter.
Ouais. »
C'est tout ce qui va autour. C'est répondre aux objections, c'est parler de son offre forcément parce qu'il faut. C'est aussi publier des témoignages, etc. Donc, en fait, c'est vraiment en ayant un écosystème comme ça, de différents contenus qui permettent d'atteindre différents objectifs, que tu vas pouvoir avoir un business qui se développe bien et surtout qui remplit un petit peu tous les bons critères. Parce que si tu n'as que l'un, que l'autre ou que le troisième, ou que tu as une mauvaise répartition, bah, tu vas avoir des lacunes dans un secteur, quoi.
Carrément. Et je pense qu'il y a beaucoup... Moi, la première, hein, avant, j'étais comme ça. On était bloqué sur un aspect, si ouais. tu veux. On se concentrait ouais. peut-être aussi sur les mauvaises choses. Moi, je sais que mon compte Insta, pendant très longtemps, j'avais beaucoup d'abonnés, beaucoup de j'aime, mais je ne vendais pas.
Ouais.
Parce que j'ai
trop de...
Ouais.
Trop de likes, trop de...
Exactement. Je n'étais pas sur le bon contenu, en fait. Il n'y avait pas d'équilibre, si tu veux.
En fait, c'est ça. C'est comme tu dis, ce n'est pas une question de bon contenu parce que les trois sont bons. C'est une question d'équilibre. C'est... comment est-ce que je fais pour équilibrer ? Et encore mieux, c'est une question d'équilibre à un instant T. Moi, par exemple, là, je suis en plein lancement. Je ne vais pas m'amuser à faire des posts où je vais raconter ma vie, tu vois.
Ouais.
Je suis en lancement, donc forcément, ma partie de promotionnel va être plus élevée qu'en temps normal, on va dire. Le but, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de pouvoir aussi jauger les catégories et les parties, bah, forcément en fonction de où vous en êtes aujourd'hui et quels sont vos objectifs de manière mensuelle ou hebdomadaire.
Mmh. Je te rejoins là-dessus. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour toi, Instagram, c'est un énorme, enfin, c'est un des piliers principaux de ta stratégie, de ton business. Mmh. Pour autant, tu te laisses pas happer par l'application, parce que je regardais le live que tu as fait avec Laura BLT tout à l'heure, et tu as eu ta petite notification de tes une heure journalière d'Instagram sont passées.
C'est ça.
En fait, tu arrives à mettre la limite, ouais.
C'est ça. En gros, ça, c'est vraiment le mythe numéro un que je vois partout et que j'entends et que j'essaie de démolir, qui n'est pas évident, tu vois. C'est que ce n'est pas parce qu'on veut développer un business sur Instagram qu'on doit passer du temps sur la plateforme. Et en plus, plus loin que ça, même, ce n'est même pas nécessaire. Parce que tout le développement d'un business, et tu le sais tout aussi bien que moi, ça se passe sur, tu sais, c'est l'iceberg. Il y a ce qu'on voit, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Un business qui se développe, c'est plein de choses qu'on ne voit pas. C'est un bon positionnement, c'est le fait de bosser, comme on disait tout à l'heure, sur ses programmes de formation, bosser sur ses stratégies de contenu, créer sa page de vente pour lancer une offre. C'est comme on est en train de le faire, bosser sur un podcast, etc. Par exemple, ton podcast, là, on est en train de le faire. On va passer une heure à le faire. Tu vas passer un petit moment à le monter et tu vas poster justement ça sur Instagram. Et en fait, le post Instagram, c'est un dixième de ce qu'on a fait.
Ouais.
Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que normalement, dans un bon développement de business, vous n'êtes pas censé passer 5 heures par jour sur la plateforme. Si vous passez 5 heures par jour sur la plateforme, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça veut dire que vous ne passez pas des heures qui normalement sont sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Et comme on parlait de stratégie de contenu, la stratégie de contenu, à 90%, c'est fait en dehors de la plateforme, tu vois. Normalement, enfin ouais. Moi en tout cas, je vais sur Insta juste pour publier des stories quand je dois en publier, répondre aux commentaires et envoyer des DM. Et honnêtement, je dépasse rarement l'heure hebdomadaire. Non, quand même pas l'heure hebdomadaire, l'heure journalière.
Journalière, ouais. La semaine, ce serait un peu juste.
Ouais, ce serait un peu juste, ouais, quand même.
Ouais, mais tu vois, c'est bien de le mentionner, je pense, parce que c'est trop facile d'être sur Instagram et de ne rien faire.
C'est ça.
Et de
c'est
penser ça. Qu'on est actif, qu'on est productif, qu'on développe notre business et tout.
Juste parce qu'on scroll, juste parce qu'on like, juste parce que plein de choses. Il y a une question, moi, qu'on me pose souvent et je vais essayer de faire la relation avec ce qu'on vient de dire. Il y a une question qu'on me pose grave souvent en mode Tony, pourquoi tu fais pas de coaching, tu vois?
Ouais.
Bon, outre évidemment ce qu'on disait tout à l'heure, les appétences et tout, il y a une raison en fait qui fait que je fais pas de coaching, c'est que je préfère investir cette demi-heure ou cette heure de coaching que j'aurai avec une personne sur une vidéo, sur un bout d'une formation ou quoi que ce soit, qui va pouvoir impacter la vie de beaucoup plus de personnes. Et en fait, avec Instagram, on peut faire la même corrélation. C'est-à-dire que plutôt que de passer une heure tous les jours à scroller, à commenter 4-5 photos comme ça à droite à gauche, si cette heure tous les jours, vous la passez à créer un contenu, qui est, parce qu'en une heure, un contenu, on en crée même peut-être 3, 4, 5, qui est ultra qualitatif, vous allez impacter beaucoup plus de personnes que l'heure que vous passez à scroller et commenter, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce que je peux faire pour passer du temps qui va apporter beaucoup plus de résultats derrière. Moi, j'ai un gros problème avec les DM sur Insta. Les gens qui vont écouter ce podcast, s'ils me suivent, ils vont me taper sur les doigts parce qu'ils le savent. J'ai du mal à gérer les DM parce que honnêtement, je reçois des dizaines tous les jours. Et en plus de ça, Instagram a un système de DM totalement arriéré, tu vois.
Ouais.
Mais comme je le dis, bah, c'est pareil. Est-ce que je préfère passer 2 heures par jour à répondre à des DM qui pour 90% des cas, bah, c'est juste des réponses un petit peu bateau du genre merci, ou alors c'est des réponses qu'on peut trouver dans mes vidéos YouTube, ou est-ce que ces 2 heures, bah, je ne les investis pas sur justement une nouvelle vidéo YouTube qui va aider encore plus les gens, tu vois.
Mm-hmm.
Donc, après, c'est une question de balance, hein, faut pas non plus ne pas répondre à personne et tout, mais il faut vraiment avoir ce mindset en mode comment est-ce que je peux investir intelligemment mon temps pour aider le plus de personnes et avoir plus d'impact dans mon business.
Je te rejoins là-dessus. J'ai pas jeté la pierre pour les DM parce que j'ai aussi du mal à gérer.
On est tous comme ça, tu sais.
Ouais, je suis terrible.
Et le pire, c'est...
Ouais, mais moi, le pire, c'est que mes potes m'envoient des DM sur Instagram. Et je leur dis, mais vous avez mon numéro. Arrêtez.
Ah, oui, non, mais moi, c'est pareil. Dès que c'est un contact, c'est WhatsApp. Parce que sinon, ouais, je sais que ça finit dans les entrailles. Et honnêtement, la personne qui m'envoie un zéro inbox sur Instagram, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué en plus. Et ça, je sais qu'ils voulaient faire une mise à jour et ce serait magnifique. Parce qu'en fait, ce qui me saoule, c'est que genre la moitié des DM que je reçois, c'est des réactions en story. Donc ouais, c'est super, tu vois. Mais en fait, ça t'ouvre une conversation juste pour une flamme. Et ça, je sais qu'Insta va le changer. Enfin, je sais, j'ai entendu dire qu'ils vont changer ça justement.
Ouais, je l'ai plus, moi. C'est bon, je l'ai.
Ah, putain.
Si tu veux, quand je regarde les stats de ma story, je vois les réactions.
Tu vois les réactions, ok.
Mais ça me fait plus de DM. Et c'est vrai que ça.
Ouais. Parce que, genre, c'est un truc de fou. Si tu fais une story un peu, je sais pas, marrante ou quoi, que t'as des réactions, t'as ton inbox, elle est pleine. Alors
ouais,
que c'est juste des flammes, tu vois. Donc je pense qu'ils ont un gros taf à faire là-dessus. On va je sais pas si on essaie d'esquiver un petit peu le truc, mais
non, mais je te rejoins parce que c'est vrai que, enfin, moi, en termes de charge mentale, quand j'ouvre Instagram et que je vois que j'ai plein de problèmes, je ressens une pression énorme parce que je sais que je vais pas réussir, tu vois, à répondre à tout le monde. Mm-hmm. Ouais. C'est un truc que, pour moi, c'est ça m'angoisse, les DM, ouais, Insta, ça m'angoisse.
Après, il y a Cal Newport, j'ai lu plusieurs de ses bouquins et il en a un justement sur la désintox sociale. Et il y a un truc qui dit beaucoup et que j'aime, c'est que faut aussi un peu prendre du recul par rapport à ça. Donc, inbox, tu sais, les mails, les messages, etc., notamment sur les réseaux. C'est que moi, je vois ça comme ça, mais je me dis toujours que si vraiment une personne a envie de m'écrire et que c'est vraiment genre indispensable, elle va savoir me trouver, tu vois. Elle va m'envoyer ça sur ma boîte pro. Ma boîte pro, elle est clean tous les jours, donc ça, c'est good.
Ouais.
Mais voilà. Et donc, je me dis, finalement, bah, les gens qui m'envoient des DM et tout machin, j'essaie de répondre, hein, comme tout le monde tous les jours. Mais je me dis que dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de vraiment très important. Sinon, elle m'aurait envoyé un mail sur un autre truc, tu vois.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, les demandes les plus importantes, elles arrivent dans ma boîte mail, ouais, et je les vois, quoi. Bah, du coup, puisque comme tu le disais tout à l'heure et comme j'ai mentionné, tu es en lancement pour ta formation Instacademy. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que, comme je disais, ça va bien au-delà de je crée du contenu pour Instagram et pour faire mon activité. En fait, c'est tout un écosystème, une méthode, un process de A à Z pour construire et développer son business grâce à Insta, mais pas que.
Mmh. En fait, j'ai même dit, toi, pour la petite anecdote, hésité à mettre le terme Instagram dans la formation. Parce qu'en fait, mon objectif à la base, c'était vraiment ça. C'était de me dire, des programmes sur Instagram, j'en ai déjà plusieurs. Et c'était de me dire, qu'est-ce que je peux apporter de plus que juste... Je développe mon audience, j'ai encore des likes, j'ai encore des machins, tu vois, des trucs un petit peu, des vanity metrics. C'est vraiment comment on développe un business, comment on fait pour générer des revenus, comment on fait pour même des fois partir de zéro et pouvoir en faire un métier. Et en fait, quand tu te poses cette question, il y a forcément plein de compétences qui viennent et dont on parle jamais sur Internet, que du coup, j'ai décidé d'ajouter et de mettre en place dans la formation. Des compétences comme, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le copywriting, tu vois, pour créer une page de vente, le fait de, comme je suis en train de le faire et comme tu l'as fait, lancer une offre, la stratégie de contenu, l'email marketing, etc., qui sont des compétences qui, à mon sens, sont indispensables pour développer un business. Et donc, quand j'ai créé la formation, je me suis vraiment dit, bah, comment est-ce que je peux faire la formation la plus complète possible qui peut aider une personne qui, aujourd'hui, a un compte Instagram, a envie de vendre ses programmes en ligne, a envie de vendre ses coachings, a envie de vendre de l'accompagnement, etc. Comment est-ce que je peux accompagner le mieux possible cette personne ? Et du coup, c'est là m'est venue, pas l'idée de la formation parce que je l'avais, mais cette idée de me dire je fais quelque chose de plus qu'Instagram. Je fais quelque chose vraiment axé business en ligne qui va aider toutes ces personnes.
Oui, l'avantage, c'est que quand on investit, c'est vrai qu'on a... En fait, tu n'as pas besoin d'autres produits si tu rejoins Insta Academy. Et honnêtement, je sais que tu le sais. Et pour le prix, je trouve que c'est une aubaine, quoi.
Oui, je me suis posé la question avant de créer la formation, de me dire, dès que la personne rentre dans le programme, et qu'elle suit le premier module, quelle question est-ce qu'elle va se poser ensuite, tu vois ? En mode, je suis le premier module, il est sur le positionnement, le fait de clarifier, trouver son idée de business, etc., avoir un positionnement de différent de ses concurrents et unique. Ok, une fois qu'elle a le positionnement, qu'est-ce qu'elle va se demander, tu vois ? Quelle est la suite ? Et finalement, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à arriver à l'objectif de la formation qui est vraiment de générer plus de revenus, des revenus constants, développer son audience, etc. Et en fait, j'ai fait en sorte finalement que la personne manque de rien. Parce que comme tu dis, souvent sur Internet et sur des programmes, alors je ne les ai pas tous essayés, je ne les ai pas tous testés, hein, mais on se retrouve, comme tu dis, à manquer d'une info, tu vois.
Ouais.
En mode, on achète un programme sur X domaines et en fait, on se rend compte que le mec, il a oublié un truc ou alors on se pose une question là-dessus et il ne l'a pas couvert dans l'information ou pire, il l'a couvert mais beaucoup trop en surface, tu vois.
Ouais.
Et c'est vraiment pas du tout ce que j'ai voulu faire, notamment sur tout ce qui est partie technique. Moi, je sais que du coup, comme je te disais, j'ai créé le programme avec des clients en live, tu vois, ils étaient là avec moi, j'ai eu leur retour et combien de fois j'ai entendu « Tony, j'ai envie de faire ça, mais franchement, la technique, ça me fait peur, ça me fait flipper. Moi, j'y connais rien. » Et du coup, j'ai vraiment aussi, sur la partie technique, voulu… j'ai tout montré, tu vois, en fonction des modules, évidemment, mais pour faire en sorte que la personne, normalement, si j'ai bien fait mon taf, n'ait pas trop de questions à se poser, tu vois.
Ouais. Je te rejoins là-dessus et c'est vrai que ça se ressent dans la... Enfin, c'est vraiment complet, quoi, pour le coup. Alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 juin. Mais pour les personnes qui veulent avoir un peu un avant-goût de ta pédagogie, tu organises une masterclass ce jeudi à 11h.
C'est ça. C'est ça. Jeudi 11 mai, qu'est-ce que je dis moi ? Je me trompe de date, pas du tout. Jeudi 27 mai.
Ouais.
Jeudi 27 mai à 11h, heure française. Donc, j'organise une masterclass qui dure 45 minutes avec une partie FAQ, etc., dans laquelle je présente la formule secrète, donc forcément on met toujours des jolis titres, hein, la formule secrète en 3 étapes pour développer un business en ligne à succès sur Instagram. Le but ici dans cette masterclass, c'est vraiment de montrer un petit peu la stratégie. Évidemment que j'approfondis beaucoup plus dans la formation, mais la stratégie finalement qu'utilisent aujourd'hui tous les business qui connaissent du succès sur Instagram. Et quand je dis succès, je ne parle pas de likes ou de commentaires, je parle vraiment de revenus, je parle de clients, je parle d'un business qui est prospère. Et en fait, quand tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que tous les business utilisent la même stratégie, qui est une stratégie de fond, et c'est ce qu'on couvre dans toute la masterclass.
Mais c'est très bien. Et pour les personnes que ça intéresse, de toute façon, il y aura les notes, enfin le lien dans les notes de l'épisode, mais au moins ça pourra donner un aperçu de ce qu'est Insta Academy.
Et en plus, la plus grosse partie des gens se sont inscrits sur la première édition de la masterclass. Donc là, on sera un petit peu moins, ça va être un petit peu plus tranquille. Je vais pouvoir répondre un petit peu mieux aux questions.
Ouais, et je pense que du coup, ce sera beaucoup plus agréable pour suivre, pour avoir un feedback.
Parce que le chat était très bien. Ouais, clairement, en feu, j'étais un peu surpris et c'était super sympa, par contre, mais assez dur à suivre, quoi.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, bravo pour ce beau projet. Merci. Et je te remercie aussi d'avoir pris le temps de discuter avec moi et de partager tes pensées, ton parcours. Il y a tellement de leçons et de choses intéressantes à tirer de tout ça, donc c'est cool, tu vois.
Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Très bonne interview. Toujours des questions très pertinentes. Et évidemment, très honoré du coup d'être le premier homme. Je pense que c'est mon trophée.
Et tu sais, c'est drôle parce que quand j'avais fini l'interview avec toi l'année dernière, je m'étais dit la même chose. Il me pose des questions intéressantes, ça se voit qu'il a fait le taf et tout. Donc je suis
Oui.
contente de recevoir ce commentaire en retour.
Non, franchement, super. Super interview, je suis très content. J'espère en tout cas que. Moi, j'ai trouvé super. Après, j'espère que les auditeurs aussi, mais
Je
ça,
pense
j'en
que
doute
ouais,
pas.
ça devrait le faire normalement. Je pense, moi aussi,
Oui.
j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup en tout cas.
Avec plaisir.
J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'avoir de nouveaux axes de réflexion quant à la création de votre contenu pour communiquer sur vos offres et votre expertise de manière générale. Si vous voulez retrouver Tony sur Instagram, c'est à @tonynvs. Il a également une chaîne YouTube appelée Tony Neves. C'est bien parce que c'est un peu la même chose partout, donc c'est relativement simple. J'en profite également pour vous rappeler la masterclass gratuite qui a lieu demain, le jeudi 27 mai à 11h. Et pour les personnes qui sont intéressées par la formation, Insta Academy, ce sera également dans les notes. Tout se trouve en dessous et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas merveilleux ça, on est bien traité ici, hein? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.